RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour le podcast quotidien de ce Roland-Garros qui a véritablement débuté ce lundi avec des qualifications qui se déroulent vraiment dans une atmosphère assez incroyable puisque j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'on a approché les 20 000 spectateurs, c'est-à-dire que par rapport aux autres grands chelems, Roland dépasse tout le monde. Et c'est vrai que le succès de l'opening week, quand même, à le rappeler, Amélie Mauresmo est assez, c'est totalement réussi. Chapeau à elle, on sait qu'on en parlera. Et il y a des matchs qui se jouent sur le cours Suzanne Lenglen devant 10 000 personnes. C'est fabuleux. Il se trouve que je suis donc dans les allées de Roland et je suis tombé sur un ami de cours numéro 1. Il est déjà intervenu à plusieurs reprises. C'est Ronan Lafay. Bonjour Ronan.
Salut Eric.
Alors Ronan, ça tombe bien parce que vous avez, je suis un peu comme les critiques de cinéma, vous avez une actualité. Parlez-moi de ce livre et puis vous allez pouvoir nous éclairer sur le personnage principal de ces qualifs, Daniel Jade. Mais donc, vous sortez un livre, faites-nous le pitch.
Bah écoutez, oui, je sors un livre qui s'appelle « Joue en match comme à l'entraînement ». En fait, dans ce livre, j'ai l'impression de me lâcher un peu plus que d'habitude, dans le sens où je dis que c'est un acte politique que j'aimerais mener aujourd'hui, que la préparation mentale intégré à l'entraînement. Aujourd'hui, je trouve que c'est une obligation. Quand on voit le modèle italien qui prône...
C'est quoi ce modèle italien?
Bah écoutez, le modèle italien, Panatta, le DTN de la fédération italienne, a dit que en 1, pour lui, il y avait le mental, en 2, le physique, et en 3, la technique. Donc moi, je soutiens complètement cette idée. Et du coup, je pars en croisade pour dire... je pense que c'est essentiel aujourd'hui, en 2026, d'intégrer le mental dans l'entraînement.
Vous déplorez peut-être qu'on n'insiste pas en France sur la préparation mentale ?
Je dirais que, en fait, pour moi, la préparation mentale, c'est la connaissance de soi. Et du coup, j'ai fait des recherches pour ce livre « Joue », et notamment Sinner qui dit que lui, la connaissance de lui-même, la connaissance de soi, c'est le premier aspect qu'il a travaillé. Qu'en fait, à partir du moment où il est sur le terrain, si vous n'arrivez pas à vous connaître, en match, ça va être compliqué de réussir. Et moi, je l'ai vécu. J'ai été quand même 17 ans sur le tour. Je sais à quel point les émotions sont importantes. Et je trouve qu'aujourd'hui, de ne pas le travailler à l'entraînement, je ne vois pas bien comment on peut s'en sortir autrement que de le mettre en avant. Vraiment, aujourd'hui, je me lance là-dedans, quoi, à fond.
Eh bien, merci, Ronan. Vous nous mettez l'eau à la bouche. C'est à quelle édition
C'est les éditions Soyez Pro et Osez. J'ai créé une maison d'édition, donc j'en profite pour en parler.
Il est parfait.
Et c'est donc à vendre sur Amazon.
Parfait. Ronan, restez avec moi, parce qu'on va parler du personnage principal de ce premier jour des qualifs. Il s'appelle Daniel Jade. Il a 17 ans, il est né au Liban, et il a réussi un exploit fabuleux sur le cours 14 en battant Dan Evans, qu'on connaît tous, hein, l'anglais, qui est sur la fin, on est d'accord, mais quand même le battre 6-4-6-4 proprement. Il a évidemment bénéficié d'une wildcard parce que son classement est au-delà de la 1000e place mondiale. Et je vous propose d'écouter sa réaction. Garçon posé, mais évidemment heureux comme un môme de 17 ans qui vient de gagner un match en qualif de Roland. On l'écoute, Daniel Jade.
Avec l'ambiance, le public français, j'ai vraiment kiffé en tout cas, et voilà, j'espère aller encore plus loin. C'est énormément de fierté. Je l'avais dit, il y a mon père qui est là, mon frère qui est là, toute mon équipe. Donc voilà, faire ça devant eux et voir les émotions de tout le monde, c'est vraiment dingue pour moi. Donc voilà, j'essaie de kiffer au maximum parce que je suis encore que 17 ans, je suis jeune. Donc voilà, je vais essayer de prendre du plaisir en tout cas sur le prochain match aussi, et voilà, essayer de faire vibrer tout le monde. Sur que le 14, c'est quand même un cours mythique ici à Roland, c'est une sorte d'arène un petit peu où il y a vraiment beaucoup de gens, et c'est toujours rempli. Donc j'ai essayé de rester le plus calme possible quand même, parce qu'il y avait quand même une sorte de pression forcément à gérer. Mais donc voilà, je suis très content.
Daniel Jade, on l'avait reçu déjà dans notre podcast il y a quelques années, puisqu'il avait été champion de France dès 14 ans. C'était quelques années après avoir fait finale aux Petits As. Et à l'époque, il jouait sous la bannière libanaise. Depuis, il a été naturalisé. Mais Ronan, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une histoire assez incroyable, parce qu'il a joué au tennis au Liban, à Beyrouth. Il était très doué, il joue aussi du piano. Et il y a eu un drame, à savoir, on s'en souvient tous, l'explosion dans le port de Beyrouth. Et là, ça a été, alors l'expression n'est pas belle, pardonnez-moi, mais ça a été un déclic pour les parents. Ils ont pris peur. Ils se sont dit, on met en danger nos enfants. Écoutez le papa de Daniel Jade qui explique pourquoi ils ont envoyé, entre guillemets, leurs enfants en Normandie.
On était tellement dans un contexte de fin du monde qu'on s'est dit, il faut vraiment sauver les garçons. Ils étaient prêts, on a pensé à eux. Bon, c'était très dur pour nous en tant que parents, mais on a mis notre égoïsme de côté, on a pensé vraiment à leur intérêt. Donc, voilà.
Ce sont des mots vraiment très très forts de la part du papa. On l'entend, ils étaient en danger. Ronan, c'est une démarche assez incroyable, rare, et qui demande une force mentale, parce que les gamins, parce qu'il y avait le frère, hein, on l'a compris dans le son, mais Daniel Jade, à l'époque, il a peut-être 12-13 ans, il est totalement déraciné de son pays, et donc là, il faut avoir la tête très solide.
Ouais, mais en fait, j'en parle dans mon livre « Joue », je dis qu'il y a quelque chose d'essentiel que j'ai appris au contact des champions, c'est qu'ils ont tous un rêve, en fait. Et en fait, tout part du rêve. C'est un film que je me crée en live. Donc à partir de là, ils ont eu très peur. Ce qui est génial dans la performance, c'est que l'horrible que peut côtoyer le très beau. Moi, ce que j'adore dans cette dualité de la performance, je peux être pas loin de la dépression et en même temps être joyeux. On est toujours sur un fil du rasoir. Et je trouve que cette histoire, elle est merveilleuse. Finalement, de se dire qu'à un moment donné, je fais un choix. Et en fait, un joueur de tennis, quand il joue au tennis, il a toujours une décision à prendre, à chaque fois qu'il va servir, à chaque fois qu'il va retourner. Et donc la décision, c'est vraiment quelque chose d'important. Et moi, je dis bravo à ces gens qui, à un moment donné, abandonnent tout pour créer quelque chose, pour rêver. Moi, je dis aux gens de rêver davantage. Je trouve qu'on rêve pas assez. Voilà.
Mais c'est très juste parce qu'il le dit. Il s'est servi de ces événements terribles pour se construire peut-être une carapace. Et c'est vrai qu'il n'a que 17 ans. Il est de la même génération que Moïse Kwame. Et il dégage quelque chose de très très fort seulement. Et on suivra son deuxième tour mercredi contre un Danois, Holmgren. En tout cas, merci Ronan pour cet éclairage. Et je souhaite bon vent à ton livre. Et c'était un plaisir de te croiser dans les allées de Roland. Et on va poursuivre notre petite balade pour évoquer les autres résultats de cette première journée des qualifs de Roland. Alors comme promis, on arrive au bilan de cette première journée compliquée pour les Bleus puisque on est à 5 victoires pour 10 défaites. Donc c'est tout à fait négatif. Les deux rayons de soleil, eh bien c'est Thomas Forel qui, vous le savez peut-être, est le neveu de Jean-Christophe Forel, l'ancien joueur pro et qui est maintenant le coach de Coco Gauff. Eh bien Thomas Forel a remporté son match, son premier tour de qualif en 2-7. Ça confirme vraiment, c'est pour vrai, il est en train de grimper tout doucement à l'ATP. Et il avait déjà joué les qualifs il y a 2 ans. L'an passé, il n'avait pas pu jouer, il s'était blessé. Donc cette fois-ci, la wildcard, il l'a bien saisi et bravo à lui. L'autre victoire tricolore, et elle est assez magique, c'est celle d'Hugo Blanchet qui affrontait un Anglais, Broom. Et c'est un match qui devait jouer sur un court annexe et finalement qui a été rebasculé sur le court Suzanne Lenglen en indoor avec beaucoup de spectateurs encore dans les tribunes puisqu'il était environ 19h. Et Hugo Blanchet s'est imposé en 3 manches en sauvant 3 balles de match dans le tie-break du deuxième. Et je vous propose une petite interview express avec le joueur de l'Ain, donc le département 01, il y tient, hein. On dit souvent qu'il est lyonnais, mais non, il est bien originaire du département voisin de l'Ain, Hugo Blanchet, qui nous raconte cette expérience assez folle.
Hugo, victoire magique, mythique, on a du mal à trouver les mots, j'ai bien envie d'entendre vos mots à vous.
C'était un match assez incroyable, le score forcément, mais le public, le court, Roland-Garros, tout ça fait que forcément les émotions sont décuplées. Et je me sens vraiment chanceux aujourd'hui d'avoir pu tout simplement faire partie de ce moment-là.
Oui, parce que vous avez été changé de cours. Et ça, finalement, ça a été une bénédiction quelque part.
Oui, bien sûr. Après, je pense que mon adversaire, ça l'arrangeait aussi bien de jouer à l'intérieur. Voilà, maintenant, c'est aussi difficile de refuser le Suzanne Lenglen quand on nous le propose. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté. Et en même temps, je me sens aussi bien sur terre battue couverte. Donc voilà, mais je pense que dehors aussi, ça aurait été un match un peu différent. Il a vraiment très très bien servi, c'était vraiment dur pendant un long moment de le retourner tout simplement. Mais voilà, quand même très content d'avoir joué sur le Suzanne Lenglen, court mythique à Roland-Garros.
Vous passez quand même par un trou de souris, je crois. Il y a une balle de match ou vous frôlez la cata?
Ah, il y en a deux, il me semble. Il y en a une, c'est sur son service, il a le coup droit pour tuer le match. Après, voilà, avec la tension, jamais facile de le mettre. Et puis une aussi où c'est sur mon service, je crois, 6-5, où je fais une grosse défense de coup droit, il me semble, qui me remet bien dans le point, mais j'étais mal embarqué. Donc ouais, c'était un trou de souris. Et vraiment, vraiment content et je m'estime chanceux d'être au deuxième tour.
Vous la placez où cette victoire dans votre carrière? On se souvient de votre parcours à l'US,
Mais j'ai l'impression que là, en termes d'émotion, c'était très costaud.
Ouais, forcément. L'US Open, bah, c'était des émotions incroyables, aussi de par le scénario. Troisième tour, c'était la première fois pour moi en Grand Chelem. Maintenant, jouer devant le public français, c'est quand même assez incroyable ici. Surtout quand ça devient chaud, il répond toujours présent. Voilà, moi, je joue pour les émotions et aujourd'hui, bah, je les remercie. Parce que c'est aussi eux qui me procurent des émotions de dingue. Donc merci à tout le public français.
Côté féminin, il y a eu beaucoup de défaites. Alors c'est vrai que la FFT avait accordé beaucoup de wildcards à des jeunes joueuses qui n'ont pas encore tout à fait le niveau. Donc il n'y a pas eu d'exploit, on va dire. Carole Monnet a remporté son match au super tie-break. C'est une habituée, puisque l'an passé, on s'en souvient, elle avait franchi l'épreuve des qualifs. Elle avait remporté trois matchs. La plupart du temps, je crois que c'était sur le Linglen, si mes souvenirs sont bons. Cette fois-ci, c'était sur un court annexe. Mais voilà, avec beaucoup de courage, une fois de plus, la tricolore s'est imposée. Donc, on la retrouvera au deuxième tour. Tout comme, et là, c'est un véritable exploit, Océane Dodin, qui s'est qualifiée peu après 22h sur le court 6. Et il y avait encore beaucoup de fans qui étaient dans les tribunes. Et ça, vraiment, c'est à saluer, parce qu'elle aurait pu finir devant trois spectateurs, comme c'est souvent le cas malheureusement sur le circuit secondaire. Mais là, la magie de Roland a opéré. Victoire en 3-7 face à une Américaine, Day, avec un time-break irrespirable, emporté 15 points à 13. Au passage, elle sauve 2 balles de match. J'ai regardé les stats, elle a signé 49 coups gagnants. Voilà, c'est sa signature, c'est sa marque de fabrique. Elle rentre dans la balle, elle ne se pose pas de questions. Océane était très émue à la fin, parce que la balle de match, elle est grotesque. À savoir que l'Américaine a boisé sa deuxième balle de service. Elle s'est trompée de carré. Océane Dodin est tombée sur les genoux. Elle a fondu en larmes. Est allée ensuite vers son clan, donc pour partager cette joie. On sait qu'elle joue avec un classement protégé, hein, qu'elle a du mal à remonter la pente parce que les matchs sont durs à gagner. Elle a été éloignée des cours pendant 9 mois en raison de problèmes à l'oreille interne. Donc c'est vraiment une victoire pleine de symboles pour Océane Dodin, qui rejouera donc mercredi. Et je peux vous dire qu'elle a fait un paquet de selfies avant de rejoindre les vestiaires. C'est une fille qui a une belle cote de popularité, Océane Dodin. Ouais, c'est une belle happy end pour Océane Dodin, parce que si elle avait perdu ce match, elle aurait eu du mal à s'en relever. Mais on a quand même une pensée pour son adversaire américaine, qui a commis, je crois, trois doubles fautes dans le tie-break. Et la dernière, si vous avez l'occasion, allez sur les réseaux, elle est absolument horrible. On ne souhaite à personne de finir un match comme ça. Le contraste est saisissant avec malheureusement la détresse de Chloé Paquet, qui elle a été battue 6-4 au troisième set par la Suisse Bandecki. Là aussi, c'est un match qui s'est terminé très tard. Et il y avait, c'était sur le 14, il y avait un peu moins de monde, évidemment. Elle aurait aimé jouer devant plus de personnes, Chloé, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques interruptions aujourd'hui à cause de la pluie, et ça a plombé un peu la journée. Et donc malheureusement, elle a fini tard. Elle manque vraiment de réussite, Chloé Paquet, parce que franchement, elle avait fait un très bon match mercredi au Trophée Clarins contre Diane Paris. Elle avait perdu 6-4 à la belle, et là encore une fois, elle perd 6-4 à la belle. Son classement est en train de plonger, puisqu'elle a perdu ses points du Trophée Clarins de l'an passé, où elle avait atteint la finale. Donc c'est un moment compliqué pour l'Yveline Oise, qui, j'en suis sûr, va rebondir, parce que franchement, le niveau de jeu était là, mais il a manqué un petit soupçon de réussite. Cette réussite que Océane Dodin a donc eu, et on la retrouvera avec plaisir mercredi. En attendant mardi, c'est une belle journée évidemment, puisque sur le cours Suzanne Langlen, il y aura notamment à partir de 12h30 Grigor Dimitrov. Ça fait de la peine de le voir en qualif, mais malheureusement c'est la résultante de sa blessure contractée face à Yannick Sinner à Wimbledon, un match qu'il était en train de maîtriser de A à Z avant de se blesser au pectoral, et il a beaucoup de mal à regagner des matchs, le Bulgare. Il n'est même pas tête de série, rendez-vous compte, même pas tête de série dans ce tableau de qualif, et il jouera un Portugais, donc ce sera un match sympa à voir. À noter aussi la présence de Bianca Andreescu, gagnante de Grand Chelem, qui jouera contre Daphné Mpetji Péricard, là aussi sur le cours Suzanne Langlen. Et puis il y aura plein de Français, puisqu'ils seront 15 au total, donc comme ça on pourra faire le bilan après le premier tour de ces qualifs. 30 au coup d'envoi pour l'instant, donc on n'en a que 5, mais il en reste 15 à venir. Allez, on touche du bois et on se retrouve bientôt pour le prochain podcast de ces qualifs de Roland, qui s'annonce passionnante. Ciao ciao.